Bonjour, donc je suis Jean-Marc Berthet. En fait, ça fait c'est la troisième année en fait que je suis ce séminaire partenarial autour des questions éducatives. Donc là aujourd'hui, l'idée donc c'était de faire un petit peu un point sur d'une part l'actualité, un peu les évolutions de ces politiques d'accompagnement à la scolarité, et puis d'essayer d'embrayer sur des ressources, des leviers, ce qui est une question qui a été posée de manière un petit peu abrupte hier par un enseignant représentant de l'éducation populaire. On va essayer d'y revenir. Avant ça, je voudrais faire deux, trois remarques par rapport justement à ce qui a été dit hier. La toute première remarque, c'est que c'est passé un petit peu inaperçu, et pour moi c'est quand même important, Julien Netter l'a dit hier, c'est que finalement on sait depuis au moins 10 ans, depuis le rapport de Dominique Glassman qui date de 2004, que les effets des accompagnements à la scolarité sont quand même très ténus. Ou qu'on a encore du mal à apprécier vraiment en quoi ces dispositifs apportent des choses supplémentaires aux enfants. Et pourtant, ça continue. Et pourtant, ça ne cesse de se développer. Je vais y revenir. Et pourtant, en particulier, au sein de l'éducation nationale, il y a une espèce de pente, là, qui est nouvelle, dont je vais dire quelques mots, qui poursuit cette volonté de proposer des dispositifs d'accompagnement. Bon. Je rappelle juste que lors de la convention d'objectifs et de gestion qui lie l'État et la CNAF, qui est signée de manière triennale ou quadriennale, celle de 2009, les contrats locaux d'accompagnement à la scolarité ont failli passer à la trappe. Il s'en est fallu à deux doigts et finalement il y a eu une montée des élus locaux pour les préserver au nom de la défense de l'emploi local en particulier et des associations porteuses de ces dispositifs. Ça c'est la première remarque. La deuxième remarque, c'est dans ces histoires de tension entre animateurs et enseignants là qu'on a évoqué hier. Et dans l'idée de les faire travailler ensemble, faut pas perdre de vue qu'il y a quand même deux grandes divisions. Donc pour travailler ensemble, quand on commence par de la division, c'est pas évident, mais il faut partir de là. Il y a une première division qui est la division intellectuelle du travail qui profite aux enseignants. Division intellectuelle du travail qui profite aux enseignants, c'est-à-dire les enseignants s'estiment mieux qualifiés à juste titre puisque ils sont plutôt bac plus 3 ou bac plus 5. Et puis il y a une deuxième division qui est la division salariale du travail qui profite encore aux enseignants. Donc faire du commun sur ces deux divisions, c'est une sacrée gageure. Mais Stéphane vous en reparlera cet après-midi dans le kit de formation sur lequel ils ont travaillé. Et pourtant, il arrive des choses stupéfiantes. Vous avez des enfants qui préfèrent largement passer du temps avec des animateurs qu'avec des enseignants. Quand même. Bon. Alors, la troisième remarque, c'est qu'on ne peut pas déconnecter toutes ces histoires de quelque chose qui me semble qu'on n'a pas assez dit hier, c'est quand même l'extrême pression de la société vis-à-vis de l'école, qui traverse toutes les classes sociales. Et ça, on ne peut pas déconnecter ces montées des accompagnements de cette pression-là, c'est-à-dire que la pression à la réussite scolaire dans une société qui va pas bien, quoi. Fondamentalement, c'est de ça dont il s'agit, dans une société qui va pas bien, qui a un taux de chômage assez conséquent. Et donc, à tous les niveaux des classes sociales, l'école apparaît comme le mode de sortie. Et ça remet une pression aux parents des classes populaires, mais aussi aux parents des classes moyennes, aux parents des classes supérieures. Et l'école est sommée de gérer les contradictions de la société, ce qu'elle ne peut bien évidemment pas faire. Mais on est dans un pays où chaque fois qu'il y a un problème de société, il faut renvoyer ça à l'école. Ça met une surcharge sur les enseignants qui est assez insupportable, me semble-t-il. Mais bon, ça c'est un point de vue personnel. Alors, ce que je vais essayer de faire, c'est un exposé en trois temps après ces remarques. La première chose, c'est faire un peu d'histoire, c'est-à-dire essayer de rendre compte de la façon dont ces questions d'accompagnement sont montées au fil du temps depuis une trentaine d'années. Le deuxième temps de l'exposé, c'est revenir sur l'actualité, revenir un peu sur les PEDT, mais pas seulement. L'actualité, c'est la signature des contrats de ville, c'est les REP+. Et je vais en dire quelques mots. Je parlerai aussi de quelque chose dont on n'a pas parlé hier, qui est le tout récent rapport de la Cour des comptes sur le suivi individualisé des élèves, parce que je trouve qu'il dit des choses intéressantes et il faut en dire quelques mots quand même. Et puis j'essaierai de finir sur des leviers, sur des ressources qui, de mon point de vue, dans le contexte actuel, dans le contexte actuel, hein, je le redis, c'est-à-dire PEDT, REP+, contrat de ville. Pour moi, la question des leviers et des ressources, elle se situe exclusivement du côté des questions méthodologiques et de la méthodologie de projet, à condition qu'on donne un vrai sens au projet, qu'on fasse des projets, pas des programmes, ce dans quoi on est engoncé aujourd'hui. Hein. Voilà, c'est un peu les trois temps. Alors, le détour historique... Quand même, il faut dire que ces affaires d'accompagnement à la scolarité, elles montent à la périphérie de l'école, et donc en externe à l'école, au tout début des années 80, 81, et elles montent pour un public bien particulier. Elles montent pour les enfants immigrés, scolarisés en élémentaire. Le tout premier dispositif qui existe, il date de 81, ça arrive même pas par les ZEP. Ça arrivera par les ZEP plus tard, ça arrive même pas par les ZEP. Ça s'appelle les études assistées. C'est porté par des associations financées pour cela et qui sont financées par qui, je vous le donne en mille, par une institution qui a disparu du paysage, qui est le Fonds d'action sociale. Fonds d'action sociale qui est devenu ensuite le Fonds d'action sociale pour l'intégration et la lutte contre les discriminations, qui a été fondé dans l'ACCE, qui vient de disparaître, fondu dans le CGET. Et là, vous avez la trame. À partir de là, vous avez la trame historique de qu'est-ce que c'est que ces affaires. Hein. Comment on part d'une question relative à l'immigration, comment ça se finit aujourd'hui sur la question de l'égalité des territoires. Là, vous avez une pente des politiques publiques. Alors, je ne vous fais pas la suite. Hein. Après 82 arrivent les AEPS, si je vous la fais rapidement quand même. 82 arrivent les AEPS, donc les actions éducatives périscolaires. C'est toujours le FAS qui finance. Hein. Pour les enfants immigrés, puis ça va être élargi au ZEP en 84, mais seulement pour l'élémentaire. En 90, on va avoir une nouvelle circulaire qui élargit les AEPS aux élèves de ZEP en 6e et 5e. C'est précis, on voit bien qu'on a des problèmes de niveau. Puis en 92, on a une première charte de l'accompagnement scolaire qui est co-signée par différents ministères. On est bien dans une approche interministérielle et pas simplement... C'est comme si c'était trop sérieux pour être laissé à la seule éducation nationale, cette affaire. Bon. En 96, on va créer donc le contrat local d'accompagnement à la scolarité qui existe toujours. En 98, on va, puisqu'on est face à une profusion de dispositifs, on va essayer de commencer à rationaliser tout ça. On va parler de contrat éducatif local. Le contrat éducatif local était pensé comme le contrat des contrats éducatifs. Il devait donner de la cohérence à la somme des dispositifs qui étaient en train de se développer, les AEPS, les classes, le truc, le machin. Je ne vous fais pas les quatre, les contrats bleus, enfin toute cette profusion de dispositifs. Et puis en 2001, on va avoir une nouvelle charte nationale de l'accompagnement à la scolarité qui est toujours en vigueur. Alors en même temps, ça j'ai envie de dire, c'est l'entrée par les dispositifs tels qu'ils sont financés. On peut pas faire fi de tout ce que les collectivités locales ont expérimenté de leur côté, sans forcément aller chercher la ressource étatique ou la ressource des caisses d'allocation familiale, hein, mais en essayant de leur côté d'innover et d'expérimenter un certain nombre de choses. Alors, on a vu hier l'exemple de Dijon à partir de 2004, mais vous avez tout plein de communes qui ont essayé de réfléchir à ces questions bien avant. Hein, ici, on est en région Rhône-Alpes. À Saint-Fond, on parle d'espace éducatif concerté et partagé en 1979. Hein, il y avait déjà des premières expérimentations autour de ça. Donc, je le redis, ça arrive quand même par la question de l'immigration. Alors, la réussite éducative en 2005 est évidemment un point d'inflexion assez fort parce qu'il vient poser, à l'intérieur de la notion d'accompagnement, la question de l'individualisation, de la personnalisation. Ce qui est une grande affaire. Ce qui est une grande affaire. Alors, ça, c'est la montée à l'extérieur de l'école. La montée à l'intérieur de l'école, elle est plus tardive. Elle est plus tardive, même si la question de l'individualisation a été posée dans les textes de loi très tôt, déjà dans la loi Habit 75, où on parle de pédagogie différenciée, de personnalisation. Hein ? Mais la mise en œuvre et l'opérationnalisation de ça, on n'a pas bien vu. Dans la loi Jospin de 89, qui place l'élève au centre, on peut se dire qu'il y a quelque chose qui joue autour d'un début d'individualisation aussi. Bon. Et c'est encore renforcé par la loi sur la refondation de juillet 2013, qui amène le concept d'école inclusive. Ce qui, dans le cadre de la loi, je trouve, est un peu minoré. On n'en parle pas assez de cette notion d'école inclusive. Ça veut dire d'une école qui arrive à accompagner tous les élèves dans leur parcours scolaire. Alors, au sein de l'éducation nationale, les grandes ruptures, c'est 2008. C'est 2008, donc c'est tardif par rapport au reste. Hein. Qu'est-ce qui se passe en 2008? Il se passe plusieurs choses. La première chose, c'est le passage à la semaine de 4 jours. Le passage à la semaine de 4 jours, c'est les débuts de l'individualisation ou des accompagnements au premier degré avec les aides personnalisées, hein, qui sont la contrepartie du passage à la semaine de 4 jours, c'est-à-dire que les enseignants au premier degré ont 60 heures à l'année pour proposer des temps d'accompagnement aux enfants. Soit dit en passant, avec la réforme de 2013, on a perdu quelques heures, puisqu'aujourd'hui, on va passer aux aides pédagogiques complémentaires qui ne sont que de 36 heures, une heure d'accompagnement par semaine. Si on regarde ce qui se passe du côté du collège, on a différents outils d'accompagnement, mais qui arrivent tardivement. Le premier, ça a été rappelé hier, c'est le PPRE, qui date de 2005-2006, hein, rentrée septembre 2005. On a les accompagnements personnalisés en sixième qui datent de 2010. Et puis, on a un troisième outil qui date de 2008, ce sont les accompagnements éducatifs. Donc, je le redis, c'est beaucoup plus tardif. Je voudrais juste revenir sur ce qui ressort d'un rapport de la DGESCO qui date de 2013, justement, sur les aides personnalisées aux primaires dans le cadre du passage à la semaine de 4 jours. Il en ressort trois choses, il y a trois grandes conclusions, c'est de dire finalement, qui sont pas forcément très positives. On dit ces temps, ça rallonge la journée des élèves qui en bénéficient sur un temps non scolaire, soit à la pause méridienne, soit après, donc ça pose question de ce point de vue-là. La deuxième interrogation, c'est de dire ça vient stigmatiser les élèves qui en bénéficient, puisqu'effectivement tous les élèves n'en bénéficient pas. Et je vais y revenir parce qu'il y a une tension derrière cette internalisation des accompagnements à l'école, qui est la tension entre universalisme et différenciation, et qui n'est pas levée, et qui existe toujours, me semble-t-il. Et la troisième chose, c'est que finalement, on a des modalités d'action qui sont peu diversifiées, puisqu'on donne 2 heures à tous les enseignants sur l'ensemble du territoire, ce qui ne correspond pas forcément aux besoins de tous les territoires. Il y a des territoires où il y a plus de besoins que sur d'autres, et ça pose des problèmes de péréquation. Alors, pour continuer un petit peu sur ces affaires, il faut évoquer ce que dit le rapport de la Cour des comptes qui vient de sortir là il y a moins d'un mois, qui lui ne s'est intéressé exclusivement qu'aux accompagnements internes à l'éducation nationale, hein, pas à ceux portés par l'extérieur et financés soit dans le cadre de la réussite éducative, soit dans le cadre des classes, soit par les caisses d'allocation familiale, qui ne s'intéresse qu'à l'interne de l'éducation nationale. Il y a deux points en préambule que dit la Cour des comptes, qui me paraissent importants de vous rappeler. Le premier point, c'est de dire la question de la gestion des ressources humaines à l'éducation nationale n'a pas bougé depuis le milieu du 20e siècle. Hein? Donc on a le même modèle de gestion des ressources humaines depuis 50 ans. La deuxième remarque, c'est de dire l'allocation des moyens aux établissements et aux académies ne prend que peu en compte les inégalités dans les résultats scolaires, même si on commence à reposer la question de la péréquation territoriale depuis peu. Hein? C'est quand même deux données structurelles qu'il ne faut pas perdre de vue. Alors, on connaît les conclusions des rapports de la Cour des comptes. Quand ils attaquent une politique publique, les conclusions sont tout le temps les mêmes. Donc, je vous la fais courte. Pour toutes les politiques, c'est pareil. 1, c'est illisible. 2, c'est pas piloté. 3, c'est mal évalué. Donc, on ne sait pas combien ça coûte. Hein? Vous prenez la politique de la vie, on va vous dire la même chose. Vous prenez la politique de la prévention du décrochage scolaire. Enfin, les derniers rapports que j'ai lus, ils disent tous... Les conclusions sont les mêmes. Donc, c'est simple. OK. Mais le pompon, c'est pas ça. Le pompon, c'est pas ça. Alors, en clair, qu'est-ce que dit la Cour des comptes? Elle dit ce ministère est pas foutu de tracer l'argent qu'il met dans ce type d'accompagnement. Bon, OK. Si on commence comme ça, il y a tout plein de choses qu'on n'est pas foutu de tracer. Hein. C'est pas très grave. Alors, mais le pompon, c'est pas ça. Le pompon, c'est que finalement, on sait pas vraiment ce que ça produit sur les enfants, ces affaires. C'est ça, le pompon. C'est-à-dire que on met en place des choses, on change les noms. Alors, c'était les aides personnalisées, les accompagnements éducatifs. Maintenant, c'est les accompagnements pédagogiques complémentaires. Bon, déjà, quand on est spécialiste du sujet, on a du mal à suivre. Alors, je vous imaginez les parents, les enfants, qu'est-ce qu'ils peuvent y comprendre là-dedans? Passons. Mais le pompon, c'est qu'on ne connaît pas les effets sur les apprentissages de ce type de dispositif parce qu'on ne sait pas donner les moyens de les appréhender. Mais ça, c'est une vraie difficulté. Et dans ce rapport de la Cour des comptes, il y a autre chose qui, moi, me paraît intéressant, qui renvoie aux questions de partenariat. Justement, c'est de dire... Alors, je vous lis, c'est un peu long, je suis désolé, puis c'est... Mais enfin, c'est pas mal quand même. La Cour a pu observer, tant au cours de ses déplacements en académie que dans le cadre de son enquête statistique, à quel point la communauté enseignante, comme les équipes de direction, savent et peuvent se mobiliser en faveur du suivi individualisé des élèves lorsqu'un véritable projet d'école ou d'établissement parvient à fédérer l'ensemble des acteurs concernés autour de cet objectif. Cette situation, que la Cour a rencontrée plus d'une fois sur le terrain, ne constitue toutefois pas la norme. Y parvenir suppose en effet de surmonter l'ensemble des dysfonctionnements du système éducatif dont les dispositifs de suivi individualisé des élèves ne sont que le révélateur. Dysfonctionnement, à savoir 1. L'inadaptation du cadre de gestion. 2. L'insuffisance de la formation et des outils à la disposition des enseignants. 3. Ainsi que les défaillances dans la conduite du changement. Cela implique de tels efforts de la part de l'ensemble des acteurs, enseignants comme chefs d'établissement et corps d'inspection, que la démarche en devient impossible à généraliser sur le territoire, hors exploit collectif et bonne volonté exceptionnelle des équipes locales. Bon, quand vous entendez ça, vous dites, après il faudrait parler de partenariat. On part de loin, on part de loin. Une fois qu'on a dit ça, qu'est-ce qui se passe quand même depuis 2008 ? C'est qu'on a affaire à une très difficile rencontre de ces deux mouvements. C'est-à-dire, il y a un mouvement qui est internalisé à l'éducation nationale, il y a un mouvement qui est externalisé. Et si on rentre par les parcours des enfants, vous allez avoir une très grande difficulté à tracer justement ces parcours, parce qu'on n'a pas, ou on n'a pas ou peu de système de repérage de quel enfant et dans quel type d'accompagnement, à quel enfant peut mieux bénéficier la somme des accompagnements proposés sur un territoire. Et donc, depuis 2008, excusez-moi, c'est quand même le grand bazar sur cette question-là. Il n'y a pas d'autre mot. Même si on espère, et c'est l'actualité, j'y arrive, on espère que ça peut au moins commencer à se résoudre au niveau du premier degré via les PEDT. Je vais y revenir, le PEDT comme porte de sortie. Cela dit, juste pour conclure rapidement cette première... partie. Donc il y a une montée de la question de l'accompagnement qui historiquement est renvoyée à sa périphérie, qui peu à peu internalisée par l'éducation nationale. Le point de rencontre a du mal à se faire. Mais finalement, on n'est pas au clair sur de quoi on parle quand on parle d'accompagnement. Si on parle d'individualisation, de personnalisation, là il y a quelque chose en creux. Et puis on n'est pas au clair sur à qui sont proposés ces types d'accompagnement, si c'est des accompagnements spécifiques pour certains élèves et donc qui viennent en plus du temps scolaire traditionnel, ou si ce sont des accompagnements qui sont proposés à tous les enfants. Il y a des espèces d'incertitudes autour de ces deux notions. Alors le deuxième temps, c'est l'actualité. Oui, bon. L'actualité, si vous voulez, là, bon, on a une espèce de paysage éclaté en somme de dispositifs qui se superposent, qui se croisent, qui essayent de se piloter, de se coordonner. Bon, bref. L'actualité, elle est triple. Il y a d'une part la question des PEDT, donc des projets éducatifs de territoire pour le premier niveau, qui sont issus de la loi sur la refondation de 2013. Ça, c'est un premier point d'actualité. Je vais en dire quelques mots tout à l'heure. Il y a un deuxième point d'actualité qui est la politique de la ville et la signature des contrats de ville. Hein, on est en plein dedans. Puis un troisième point d'actualité, c'est le passage au REP plus après les sites préfigurateurs. Et puis, il y a un autre point d'actualité, c'est des moyens qui sont en diminution quand même, hein, sur un certain nombre de sites. Mais pas partout. On voit bien que sur l'éducation prioritaire, justement, on a renforcé des moyens. Donc tout ça, c'est compliqué. J'y reviendrai, la question des moyens aussi. Sur cette actualité, bon, ça fait des années que je répète la même chose, on est dans le bougisme permanent. Bon. C'est-à-dire qu'on a quand même une somme de transformation. Ça bouge tout le temps. Le problème de ce bougisme permanent... c'est qu'il produit en lui-même une espèce d'amnésie institutionnelle. Et c'est une vraie difficulté. Donc une très grande difficulté à capitaliser ce qui a été fait. Et je vais y revenir, c'est vraiment un problème de méthodologie de projet. C'est-à-dire que à force de nous amener sur des nouveaux projets, on n'évalue jamais ce qu'on a fait. Mais on ne cesse de parler d'évaluation pourtant. Mais évaluer, c'est pas remplir des tableaux Excel. Hein. C'est pas ça l'évaluation. En même temps, ça, ça produit une espèce de chantier permanent. Le chantier permanent, c'est un mode de gouvernement. C'est un mode de gouvernement, c'est-à-dire on ne sait pas où on va, donc autant faire semblant de bouger pour dire qu'on fait quelque chose. Je suis un peu méchant, mais quand même, c'est bien de ça dont il s'agit. Maintenant, si on regarde, que ce soit ces PEDT, que ce soit ces contrats de ville, que ce soit ces REP+, la question que je souhaiterais poser, c'est comment on aborde la notion de projet dans ces contrats, dans ces dispositifs. Et parce qu'on parle de partenariat, mais le partenariat commence par le montage du projet commun. Et là, on a une opportunité magnifique de monter des nouveaux projets communs, c'est l'actualité. Et moi, ce qui m'interroge, c'est que j'ai pas le sentiment qu'on soit vraiment dans des dynamiques partenariales constructives. Si je prends l'exemple de la politique de la ville, enfin, ça fait 25 ans que je suis la politique de la ville, là, je trouve qu'on est sur une perte en ligne assez dommageable. Je pense qu'on n'a jamais aussi mal engagé le travail de préparation des contrats de ville. Alors déjà, les contrats de ville 99-2000, c'était pas terrible. Les CUX 2006-2007, c'était pas terrible. Mais j'ai l'impression que c'est encore pire. On pourra y revenir si vous le souhaitez. Et c'est encore pire alors même que, du point de vue de la construction partenariale, il est requis pour la première fois, c'est une avancée incroyable, la signature des rectorats, par exemple, dans les contrats de ville, sauf que j'ai du mal encore à voir comment est-ce qu'ils se positionnent dans ces affaires. C'est exactement la même chose pour les REP+, hein, où il y a vraiment une opportunité là à saisir pour bâtir du projet. C'est exactement la même chose pour les PEDT. Mais si je regarde un peu les PEDT, puisque j'ai fait un petit travail sur quatre communes là, sur les liens entre réussite éducative, PEDT. Ce qui me frappe dans la mise en place de la réforme des rythmes, c'est qu'on a une réforme. Bon, on l'a dit hier, je le redis, on est rentré par l'organisationnel et les moyens. Quand vous rentrez dans le projet par les moyens, c'est foutu, hein. C'est la plus mauvaise manière de rentrer dans le projet. Bon, c'est comme ça qu'on y est rentré. Mais ce qui est assez caractéristique, moi, j'ai investigué sur quatre sites, deux qui étaient passés à la réforme en 2013 et deux en 2014. Les deux qui étaient passés à la réforme en 2013, en 2014, ils ont changé complètement leur organisation d'une année sur l'autre. Complètement. Il y en a un, ils sont partis la première année sur une offre éducative, sportive, de loisirs, sur les temps, les TAP, NAP, là, vous les appelez comme vous voulez. L'année d'après, et entre-temps, en milieu de la première année de la mise en place, ils font une grande enquête auprès des enseignants, auprès des parents. Ils se rendent compte que l'offre va pas. Ils disent, on change tout. Ils changent tout, et ça rejoint nos échanges d'aujourd'hui. On change tout, on sort des propositions d'activités éducatives, sportives, culturelles, loisirs, on propose de l'accompagnement à la scolarité uniquement. On le fait, on le scinde, on dit pour les CP, tous les gamins sont en coup de pouce, donc des petits groupes. Pour CE1 jusqu'à CM2, on fait deux types d'offres, une étude classique et puis une étude renforcée en petits groupes de type, un petit groupe de 12 gamins. Et là, on tombe sur la grande question, qui le fait ? Alors, on retombe sur... Je donne cet exemple parce que je trouve qu'il est super intéressant des contradictions dans lesquelles on est. En fait, on demande aux enseignants s'ils sont d'accord pour avoir un sursalaire pour faire ce temps-là. Et en gros, sur la commune, les deux tiers des enseignants donnent leur aval et donc font des accompagnements une heure de plus par jour après leur temps scolaire. Mais toutes les écoles ne font pas comme ça. Et donc, il y a d'autres écoles où ce sont des animateurs qui gèrent ce temps-là. Et alors là, bon, ils sont en plein là-dedans. Excusez-moi, il n'y a pas d'autre mot. Ils sont en train de gérer la pétaudière, quoi. La pétaudière, c'est-à-dire la montée des parents qui disent « Mais qu'est-ce que ça veut dire d'une école à l'autre, ce temps d'accompagnement à la scolarité, il est fait par des enseignants, de l'autre côté, il est fait par les animateurs, ils n'ont pas les mêmes compétences, ils n'ont pas les mêmes qualifications. » Ok. De notre côté, vous avez des parents qui disent « Oh, ben c'est très bien de mobiliser nos enfants sur ces temps-là. » D'autres qui disent « Non, non, mais moi, je préfère que ce soit moi-même qui suive les devoirs de mes enfants. » Donc, voilà. Enfin, là, on est au cœur des contradictions autour de l'accompagnement à la scolarité, des pressions sociales des uns et des autres. Et finalement, on voit bien que, et c'est ce qui avait été dit hier, je suis entièrement d'accord, de la même façon que sur l'aide aux devoirs, la question de l'aide aux devoirs est une question sans fin parce qu'elle renvoie aux contradictions de la société. Mais ce type de démarche mise en place par cette commune est un peu similaire. Ce qui est assez intéressant aussi, c'est que, pour revenir sur la réforme des rites, elle avait une histoire qui était liée à la volonté de bâtir de véritables projets éducatifs locaux, qui est une très très vieille histoire, et que là aussi, il y a une petite perte en ligne, c'est-à-dire que le projet éducatif de territoire, il est au niveau du premier degré, alors même que dans la volonté historique, c'était de faire quelque chose de beaucoup plus extensif, hein, d'avoir un projet éducatif local plus extensif, pas simplement... adapté au premier degré, mais qui puisse aller pour certaines communes de 0 à 25 ans. Bon. Alors, une fois qu'on a dit tout ça, il y a un autre élément dans cette réforme des rythmes qui me paraît important et qui explique aussi que, si vous voulez, pendant très longtemps, dans ces affaires d'accompagnement, dans ces affaires d'éducatif local, dans ces affaires d'articulation entre la périphérie de l'école et son intérieur... on était plutôt sur des dynamiques interministérielles, c'est-à-dire vous aviez dans le pilotage institutionnel au moins l'éducation nationale, la ville, et puis vous aviez deux grands autres acteurs qui étaient alors jeunesse et sport historiquement, et puis maintenant des DCS, et puis les caisses d'allocation familiale. Ce qui me paraît assez caractéristique dans la mise en place de la réforme telle qu'elle s'est faite là, c'est qu'on a le sentiment que CAF et des DCS se sont retrouvés un peu en retrait. Sont retrouvés un peu en retrait pour des raisons assez simples, hein, c'est qu'ils n'avaient pas les moyens humains de suivre tous les projets. Et là, il y a eu de la perte en ligne. C'est-à-dire qu'on s'est retrouvé dans une espèce de jeu partenarial à deux, alors qu'historiquement, il était plutôt construit à quatre. Et il y a eu de la perte en ligne, c'est-à-dire qu'on s'est retrouvé dans un face-à-face éducation nationale-ville. Et d'une certaine façon, on a laissé les villes à la manœuvre. Hein, on a laissé les villes à la manœuvre, c'est-à-dire du côté de l'éducation nationale. Je ne suis pas certain que cette affaire ait été vraiment toujours bien... piloté au regard de ce qu'aurait pu être une construction partenariale un peu plus efficiente. Et en même temps, j'ai envie de dire, comme on est rentré par le pire, c'est-à-dire par l'organisationnel et les moyens, ce que j'appelle la tambouille administrative, il y a des marges de progression énormes sur la question des contenus et du pédagogique, et on va y arriver petit à petit, mais bon, ça prendra sans doute du temps, puisque je le redis, cette question des horaires, enfin à travers les exemples, vous avez des communes en deux ans, deux organisations complètement différentes. On n'est pas à l'abri que celles qui sont passées en 2014 ne changent pas leur organisation en 2015. Hein. À Marseille, ça va être le cas. Oui, alors Lyon et Marseille sont les communes les pires dans la mise en œuvre de la réforme. N'ayons pas peur des mots, c'est une vraie catastrophe que ces deux communes, une de gauche, une de droite d'ailleurs, hein, n'aient pas pu donner l'exemple. Bordeaux est pas mal, cela dit, Bordeaux est pas mal aussi. Hein. Bon, ce serait un autre sujet. Dernière caractéristique de toutes ces affaires, là, au-delà des PEDT, c'est que quand même, on se trouve dans un contexte de professionnalité en très forte tension. C'est-à-dire de professionnalité en tension. Tout ça, ça vient brasser beaucoup de professionnalités très différentes, du côté des enseignants, des animateurs, des ATSEM. On a commencé un peu à en parler. Donc ça vient interroger beaucoup de monde. Et alors il y a un truc qui est dingue, c'est que quand vous avez des professionnalités en tension, des professionnels sous tension, on se pose jamais la question des effets de la tension des professionnels que ça peut engendrer sur les enfants. Non, parce que quand même au départ c'était ça, hein, c'était pour l'intérêt des enfants. Dernier point sur ces affaires, c'est que quand même le risque, on le voit bien. Je vous ai donné l'exemple de la commune là qui met en place de l'accompagnement à la scolarité à la place d'offres éducatives sportives, qui le fait gratuitement. On a une très grande différenciation des offres entre la gratuité ou le payant. Et donc, on est dans un système, on verra ça dans 5 ou 10 ans, mais ça interroge du point de vue de l'équité territoriale. De la même manière, on sait très bien que l'investissement des communes dans ces questions périscolaires est très inégal d'une commune à une autre. Vous avez des communes qui ont fait le pari financier de foutre des TNI dans toutes les écoles, d'avoir des batteries d'ordi pour toutes les classes, d'autres qui sont beaucoup plus loin de ça. Et là, il y a un véritable enjeu qui n'est pas toujours pensé comme tel. Alors... une fois qu'on a dit tout ça, c'est quoi les leviers, c'est quoi les ressources? Moi, j'en vois qu'une seule ressource, faire de la méthode de projet, mais du projet, et redonner du sens aux mots. Alors, redonner du sens aux mots, je vais vous donner un exemple en contrepoint. Il y a un grand défenseur de l'éducation populaire qui s'appelle Franck Lepage, qui fait ce qu'il appelle des conférences gesticulées. Et alors, dans une de ces conférences gesticulées, Il prend tous les gros mots de politique publique aujourd'hui, donc contrat, projet, diagnostic partagé, participation des usagers. Comment ? Ouais, voilà, c'est ça. Et il les met sur des cartes et il nous montre de manière très brillante qu'on peut tirer n'importe quelle carte, ça va faire des phrases. C'est ce qu'on appelle la logorée. Bon. À la fois, je suis d'accord, c'est drôle. En même temps, justement, ce dont il s'agit vraiment, c'est de redonner du sens aux mots. C'est de redonner du sens aux mots. Donc, c'est ce que je vais essayer de faire. Mais avant ça, je voudrais dire deux, trois choses sur la question du partenariat. Le partenariat, Stéphane l'a dit hier en représentant la petite diapo, c'est trois niveaux. Le terrain, l'encadrement, le politique, les décideurs. Ça, c'est les trois niveaux. Donc, ça ne peut se construire que par niveau. Ça, c'est la première chose. Donc, ça veut dire que si on veut que le partenariat soit un peu opérant, il faut que le terrain bosse bien avec le terrain, il faut que l'encadrement bosse bien avec l'encadrement, que le politique bosse bien avec le politique. Ça fait déjà beaucoup de prérequis, mais c'est en même temps indispensable. Et c'est d'autant plus indispensable. Je vais vous expliquer aussi pourquoi c'est indispensable tout à l'heure, parce que ce terme de partenariat, il implique au moins trois formes différentes. Il y a trois types différents de partenariats. Premier type de partenariat, c'est ce que j'appelle le partenariat formel, c'est celui qui est imposé par les constructions institutionnelles. Il faudrait être partenaire. Bon, ok. Le deuxième type de partenariat, ce serait ce que j'appelle le réseau. Le réseau, c'est un niveau différent du partenariat formel. Le réseau, c'est un mélange de formel et d'informel. Et c'est ce qui va permettre que de la dynamique puisse se créer, et une dynamique informelle qui vient alimenter une dynamique formelle, qui peut parfois même la tordre. Et puis il y a encore un troisième niveau de partenariat, qui est ce que j'appelle le milieu. Le milieu, si vous voulez, c'est l'épaisseur du local. C'est la construction sédimentée au fil du temps de partenariats, qui sont à la fois des jeux institutionnels, mais aussi des jeux de personnes. C'est une espèce de densité des liens formels et informels. Pourquoi est-ce que j'insiste sur la notion de milieu ? Parce que quand ce milieu il est opérant, la question du turnover ne se pose plus. Et on sait que c'est une vraie difficulté, cette affaire du turnover, et on dit toujours « Ah, mais tout ça, c'est des constructions de personnes, et quand les personnes s'en vont, tout se casse la figure. » On ne peut pas faire des politiques sur de la personnalisation de l'action publique, c'est pas possible. C'est pas possible. Ça implique trop, ça demande trop justement à ces personnes. Par contre, quand il y a un milieu qui existe, ben le nouvel arrivant, il est accueilli, il sait dans quoi il fonctionne. Il est accueilli. Et la question du turnover, elle se pose différemment, puisqu'il y a une logique d'ensemble qui permet de tenir ces constructions partenariales. Alors, pour finir, 7 points. Le premier. Premier levier, c'est tenir les niveaux et donc bien piloter à tous les niveaux. Et bien piloter à tous les niveaux, c'est pas simple. Je le redis, quand je regarde les contrats de ville, je sais pas bien où sont les rectorats et les DASEN dans la construction des contrats de ville. Et en même temps, ça me paraît indispensable. Alors qu'est-ce que ça veut dire, piloter à tous les niveaux ? Ça veut dire aussi qu'à un moment donné, on a parlé des trois niveaux de partenariat, mais il faut que le terrain soit en capacité de faire remonter à l'encadrement qui a besoin de pilotage. Il faut que l'encadrement soit en capacité de faire remonter aux décideurs qui a besoin de pilotage. Ça marche pas comme ça d'institution à institution, ça marche à l'intérieur des institutions. C'est la capacité de l'en bas à faire remonter qu'il y a besoin de pilotage. On peut pas se plaindre que ça va pas si on fait pas remonter qu'il y a un vrai manque de pilotage. Le levier numéro 2, c'est la question du faire projet, non pas programme. Donc inventer mais pas innover. Fondamentalement un projet, c'est se jeter en avant, on sait pas où on va. Aujourd'hui on fait pas des projets, on fait des programmes puisqu'on sait où on va. Faire projet, on sait pas où on va. Et ça renvoie à une vraie question, c'est par quoi on commence le projet ? Alors je ne sais pas si je vous pose la question, vous, par quoi vous commencez le projet ? Il y a différentes manières de commencer le projet. Soit vous le commencez par les moyens, alors là c'est la pire. Soit vous le commencez par le diagnostic, mais vous oubliez l'existant, donc vous êtes dans la politique de la table rase. Soit vous le commencez par l'évaluation. Soit vous le commencez par la discussion sur les valeurs. Il y a différentes manières de rentrer dans le projet. Alors, la manière idéale, c'est évidemment de rentrer par les valeurs. C'est évidemment de rentrer par les valeurs, sauf que ça, il faut du temps. Nécessairement. Parce que si évaluer, c'est juger de la valeur, il va bien falloir qu'à un moment donné, on ait discuté de qu'est-ce que c'est que les valeurs qu'on partage. C'est de ça dont il s'agit. Alors, Pourquoi est-ce que je dis faire projet et pas programme? Parce qu'on est quand même dans un système où on la connaît, la mécanique des politiques publiques, hein. C'est basé sur un triptyque. Il fallait expérimenter des choses, on les évaluait, on allait les généraliser. Sauf qu'en les généralisant, on faisait plus des projets, on faisait des programmes. Donc, faut sortir cette logique, cette espèce de triptyque, la expérimentation, évaluation, généralisation, qui, casse, c'est le cas de le dire, la dynamique de projet, de ce que c'est qu'un projet. C'est-à-dire qu'on réinvente plus. On ne fait que juxtaposer des choses de l'extérieur sur nos pratiques locales. Mais c'est pas, ça, c'est pas du projet. Donc, dans ce cadre-là, le dispositif, c'est vraiment des moyens au service des projets, mais c'est pas des projets en eux-mêmes. Les dispositifs ne sont pas des projets en eux-mêmes. Ce ne sont que des moyens au service des projets. Troisième levier, c'est poser les implicites et les contraintes. Donc, accepter la conflictualité. On en a parlé hier, c'est le compromis négocié, ou je ne sais plus comment ça a été formulé. Le lieu de conflit négocié, je suis entièrement d'accord. On commence à être bon partenaire quand on commence à bien s'engueuler ensemble, quoi. C'est de ça dont il s'agit. Alors, poser les implicites, les contraintes et accepter la conflictualité, ça implique de travailler sur un autre triptyque, qui me paraît déterminant, c'est le triptyque valeur, représentation, pratique. Valeur, représentation, pratique, c'est-à-dire ce qui achoppe dans les constructions partenariales, si on reprend l'exemple des enseignants et des animateurs, c'est que forcément ils n'ont pas les mêmes pratiques, mais s'ils n'ont pas les mêmes pratiques, c'est parce qu'ils n'ont pas les mêmes représentations, et puis s'ils n'ont pas les mêmes représentations, c'est parce qu'en amont, ils n'ont pas non plus les mêmes valeurs. Hein, on en revient au même. Et si on déconstruit pas cette espèce de triptyque qui est porté par chacun, eh bien, on reproduit ce qui a été dit hier de manière très pertinente. Moi, j'adore ça. Le bon sens, c'est la chose la moins partagée du monde, quoi. C'est évident. On a chacun son bon sens. Hein. À un moment donné, il faut bien qu'on le discute. Je dis ça, quand je dis poser les implicites, les contraintes, c'est aussi, la position de chacun par rapport à qu'est-ce qu'on fait circuler comme information autour d'un jeune, la question du secret professionnel, enfin, vous savez, des trucs qui prennent un peu de temps, hein, dès qu'on rentre dans le dur du partenariat. Ou d'autres choses toutes bêtes, tiens, entre animateurs et enseignants, c'est quoi le règlement intérieur, c'est quoi les sanctions, c'est quoi l'échelle des sanctions. Des trucs tout bêtes, quand vous vous confrontez à ça, il y en a pour un peu de temps. Et pourtant, c'est déterminant. Déterminant, si on veut penser le gros mot de cohérence éducative. Dans ce levier 3, les contraintes, il faut aussi, si on veut faire projet, il faut être en capacité de comprendre les contraintes de l'autre. On peut pas faire projet de manière, on est au pays des bisounours, tout va aller bien, les autres ont aussi des contraintes. Donc si les contraintes de chacun ne sont pas explicitées, si elles restent dans l'ordre de l'implicite, à un moment donné, elles vont revenir dans le projet comme autant d'empêcheurs de développement du projet. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire reprendre la vieille trame, je sais plus si c'était des Franca ou des CMEA, une vieille trame de l'éducation populaire qui est de dire il faut partir des contraintes pour faire des ressources. Hein. Faire des contraintes des ressources. Levier numéro 4, faire confiance aux enfants et aux adolescents à qui on ne demande jamais leur avis. Et les associer au projet. Parce que dans ces affaires, quand même, on a le sentiment que c'est toujours des affaires d'adultes. On oublie quasi systématiquement de demander ce que les enfants ils en pensent. Ou alors c'est très rare de les voir associés à des projets éducatifs qui les concernent. Et alors ça, c'est drôle, parce que partout ailleurs, dans la langue de bois des politiques publiques, il faudra associer les usagers. Mais alors là, on n'en est même pas à la langue de bois de leur association. Le cinquième levier, c'est la question de la priorisation. C'est la question de la priorisation, et ça aussi, pour moi, ça fait partie de la démarche de projet. À quoi ça sert fondamentalement, à un moment donné, quand on est dans la démarche de projet, bon, il va bien falloir passer par le diagnostic. À quoi ça sert le diagnostic? Un diagnostic, fondamentalement, ça sert qu'à une seule chose, c'est déterminer les enjeux sur lesquels on pense pouvoir peser collectivement. Déterminer les enjeux sur lesquels on pense pouvoir peser collectivement, ça veut dire qu'on ne répondra pas à tout. Les besoins sociaux sont infinis. Les moyens sont finis. À un moment donné, il s'agit de se demander collectivement, c'est quoi nos priorités? On ne répondra pas à tout. Mais collectivement, je le redis. Sixième levier, c'est le faire collectif. Alors c'est bien beau, une fois qu'on a dit ça, faire collectif, c'est quoi le problème? Le problème, c'est un problème d'animation du collectif. C'est-à-dire qu'on a des coordonnateurs, alors avec Stéphane on en parlait souvent, c'est-à-dire qu'à un moment donné on fait des coordinations de coordonnateurs. Quand on en est là, on en est loin. Hein. Bon. Qu'est-ce que c'est un animateur du collectif? C'est quelqu'un qui est légitimé comme tel, qui va permettre de faire passer une collection de partenaires à un collectif de partenaires, ce qui est deux choses différentes. Une collection de partenaires à un collectif de partenaires, c'est deux choses différentes. Alors moi, j'ai fait un rêve cette nuit. c'est que les animateurs de ces collectifs, ils soient cofinancés par les collectivités, par l'éducation nationale. Ça réglerait bien des problèmes, voyez-vous. On réinventerait l'histoire de la politique de la ville, ok, j'invente rien, d'accord. Mais quand même, c'était pas mal le copilotage, le cofinancement des chefs de projet politique de la ville. Ça avait du bon, hein. Justement pour défendre la fonction tierce. C'est-à-dire, je suis un peu côté éducation nationale et un peu collectivité, et je peux naviguer dans le jeu et je peux mettre un peu d'huile dans les rouages. C'était un rêve. Levier 7, c'est reconnaître la noblesse du bricolage. Quand même, fondamentalement, qu'est-ce qu'on fait? On est dans la bricole permanente. On est dans le bricolage permanent, on bricole. Bon, mais c'est pas très grave. Mais se reconnaître la noblesse du bricolage, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'à un moment donné, il va bien falloir que les hiérarchies acceptent de reconnaître que elles ne savent même plus, si tant est qu'elles l'aient su un jour, ce que fait le terrain. Donc elles ont mal fou à comprendre la tension entre le prescrit du travail et la réalité du travail, et qu'à un moment donné, il faudrait arriver à penser l'étayage du bricolage plutôt que de penser à remettre du prescrit sur du prescrit qui marche plus.
Donc, soutenir l'existant plutôt que prescrire l'idéal, disait Françoise Lantôme.
Ouais, voilà, c'est ça, exactement. Tu l'as dit en quatre mots, de manière bien plus claire que moi. Alors, en conclusion, je le redis, il faut vraiment qu'on redonne du sens aux mots de la méthodologie de projet, qu'on les prenne au sérieux, ces mots, et non pas qu'on les prenne comme de la langue de bois qui s'imposerait à nous. Ces mots, ils doivent permettre de créer une véritable communauté éducative, c'est bien ça dont il s'agit. Et à quoi elle sert cette communauté éducative pour les quartiers ou pour les publics dont on parle là, c'est-à-dire des territoires de la politique de la ville ou des publics en difficulté sociale? À éviter quand même ce qui est là sous nos yeux et grandissant, c'est une école à plusieurs vitesses. Place au débat.